Alors, Evry Schatzman, vous n'avez pas tout à fait connu cette attente, cette impatience de l'IAP Boulevard Arago qui devait se construire, mais vous connaissez cette histoire par cœur, puisque vous en avez été très vite dès 1944, et qu'on l'a vu au cours de ces deux journées, je le répète, combien pour toute la communauté des scientifiques, il y avait de l'amitié, du respect pour vous, puisque vous êtes, je crois, l'un des fondateurs de l'école d'astrophysique française. Alors, cette IAP, vous me disiez tout à l'heure, ça a été une bagarre, et une bagarre d'individus pour qu'il existe et qu'il existe vite.
Oui, il y avait dans la situation, il y avait deux éléments importants. Le premier, c'était de reconquérir un développement de la science astronomique française vers les nouvelles directions qui s'ouvraient en fait depuis la fin du siècle dernier et qui en France avaient été très insuffisamment développées. Et d'autre part, il y avait un problème de tutelle, c'est-à-dire que les astrophysiciens naissants, si je puis dire, se rendaient compte avec quelque amertume qu'ils ne pouvaient réaliser leurs objectifs qu'en sortant du cadre institutionnel, du cadre administratif des observatoires. Donc il y avait d'une part la poursuite de crédits, de moyens de travail, et d'autre part la poursuite d'une autonomie de fonctionnement qui ouvre plus largement les portes des nouvelles directions de recherche. Et c'est en cela qu'existent les deux types d'opérations qu'il a fallu effectuer. La première était très générale, elle a été menée avec une ardeur extraordinaire par Jean Perrin. Jean Perrin qui a fait les ministères, qui a fait la cour ou les démarches ou le siège des administrations jusqu'à ce qu'il ait obtenu en 1935 la création de la Caisse nationale de la recherche scientifique. Mais jusque-là encore, les moyens étaient médiocres et c'est le bouleversement politique de juin 1936 qui a hâté le processus avec Jean Perrin devenu très rapidement, après Irène Joliot, secrétaire d'État à la recherche scientifique.
Et c'est là qu'un décret
Et c'est là qu'un décret, d'une part, qu'un décret a institué ce que l'on a appelé le service d'astrophysique et qui était destiné à couvrir deux centres importants, l'un qui était un observatoire, qui est maintenant l'Observatoire de Haute-Provence, et l'autre qui était un centre d'études, je dirais à la fois théorique et instrumental et de dépouillement des observations qui devait se créer à Paris. Et alors là, la deuxième bagarre a consisté à obtenir cette création de façon autonome et cela, c'est à Jean Perrin que cela a été dû. Et finalement, cet institut a dû, la construction de l'institut a dû démarrer en 38 et il faut attendre le début de 1940 pour que le béton soit là. Alors après cela, il restait à faire de l'équipement. On m'a raconté les anecdotes de l'équipement. Il y avait seulement l'aile nord et l'aile sud du bâtiment qui étaient fermées par des vitres. Chalon-Angers avait soigneusement fait mettre des verres cathédrales pour qu'on ne voit pas ce qui se passait derrière les vitres. Et à cette époque-là, l'achèvement a été fait par tout un système semi-clandestin, mais des anecdotes, il y en a. Par exemple, il n'y avait pas de crédit d'équipement, je veux dire d'équipement de matériel de bureau, ce qui fait que Challonge a fait facturer des tables comme support de spectrographes et des chaises comme support de spectroscopistes.
Il faut peut-être dire que Challonge, Barbier, Mineur ont été les trois opérateurs, d'une certaine façon, scientifiques de cet institut, et que pour la première fois, ils ont réuni physiciens, mathématiciens, astronomes pour travailler ensemble.
Oui, c'était l'objectif, mais les débuts étaient extrêmement difficiles. Les problèmes de recrutement étaient d'une difficulté inimaginable à l'heure actuelle, où les gens se pressent aux portes et malheureusement, on ne peut pas les faire entrer. Le développement du point de vue recrutement commence en fait après la guerre seulement. Et jusque-là, enfin, dans cet institut, il y avait deux assistants de mineurs. Chalon, je crois, n'avait encore personne en 1944. Barbier travaillait avec Nina Morgouleff. Et c'est dans les années qui ont suivi que petit à petit, cet institut s'est développé. Mais moi, j'ai encore vu, les tout premiers pas de cette maison, qui laissait espérer beaucoup de choses, ne serait-ce qu'à cause de l'enthousiasme des gens qui y travaillaient.
Evry Schatzman, pour vous, la guerre, ça a été aussi le départ, et ça a été aussi peut-être d'une certaine façon une bifurcation dans votre carrière, parce que vous ne vous décidiez pas tout à fait à l'astrophysique, et c'est la guerre, au fond, qui vous a fait décider d'embrasser cette discipline pour des raisons graves.
Oui, c'est un concours de circonstances qui m'a amené à l'Observatoire de Haute-Provence en 1943. C'était l'époque du service du travail obligatoire. Je cherchais un refuge et j'avais des amis à Lyon, où j'étais déjà réfugié à l'époque, qui m'ont dit « Mais il y a l'Observatoire de Haute-Provence, va voir Jean Dufay ». J'ai vu Dufay qui m'a immédiatement donné son accord, ce qui fait que je me suis trouvé arrivé le 1er juillet 1943 avec, pour la première fois à cette époque-là, le sentiment que j'étais à l'abri. Mon père avait été déporté en 1942, les menaces étaient innombrables, et j'ai eu dans cette opération un nombre extraordinaire de soutiens pour me préserver. Mais quand je suis arrivé là, j'étais encore étudiant, j'étais jeune physicien, mes connaissances d'astronomie étaient réduites presque à zéro, et j'ai simplement offert, en échange de l'hébergement, d'être un bon assistant de nuit et de m'initier à la discipline. Et c'est cette discipline qui m'a conquise. Il y a eu une péripétie, d'ailleurs tout à fait intéressante, et également, c'est les hasards qui font cela. J'étais un lecteur de Science et Vie, que je lisais hier régulièrement, et un jour, je crois, c'est en début 1944, je suis tombé par hasard sur un très long article de Paul Couder, qui était un vulgarisateur connu, qui était déjà à l'Observatoire de Paris, et qui racontait d'où les étoiles tiraient leur énergie. C'était enthousiasmant, c'était cette jonction entre cette astronomie que je découvrais et cette physique microscopique qui était fascinante et qui était celle à laquelle mes études me préparaient ou me formaient. Et c'est à partir de là, je crois, que mon cœur a chaviré vers l'astrophysique.
Vers l'astrophysique. Evry Schatzman, quand vous jetez un regard en arrière au-dessus de votre épaule sur ces 50 ans, qu'est-ce qui a le plus changé ici à l'IAP? Est-ce que c'est une instrumentation plus précise, plus technologique? Est-ce que c'est des disciplines plus pointues pour les uns et pour les autres? Qu'est-ce qui vous marquerait le plus?
Vous savez, je crois que c'est la situation à l'Institut d'astrophysique est d'une certaine façon le reflet de la situation de l'astrophysique mondiale. On ne peut pas faire route à part dans ce genre de domaine. Et l'énorme différence, c'est même presque difficile à faire passer, tellement le chemin parcouru est énorme, c'est que il y a 40 ans, la seule chose que l'on recevait, c'était le spectre des étoiles dans le domaine visible. Il n'y avait presque rien dans la radio, l'ultraviolet, on n'y touchait pas, les rayons X encore moins, les gamma, on ne pouvait pas en rêver, les cosmiciens faisaient des rayons cosmiques, mais ils avaient plutôt les yeux tournés vers leur signification en tant que particules et non pas comme messagers du cosmos, ce qui fait que la base d'information était extrêmement réduite. Mais l'extraordinaire bouleversement des moyens d'investigation a aussi ouvert un champ de réflexion, de théorie, que bon, peut-être les plus audacieux des visionnaires de l'époque envisageaient. Il n'y en avait pas beaucoup.